Chapitre 26. Juna et Saga suivent le sentier à travers la forêt, contournent un bloc de pierre recouvert de mousse verte et avancent d'un pas rapide. On n'entend que le bruit de leurs pas sur le sol mou. Un bouleau est tombé en travers du chemin, mais il a été arrêté dans sa chute par les arbres de l'autre côté, créant un portail sous lequel ils doivent passer. Le sol est légèrement pentu et ils ralentissent.
« Elle nous a indiqué le mauvais chemin ?»
demande Saga en haletant. « Non, je crois pas. Il y a de la terre déversée à plusieurs endroits. » Un pont de fortune a été fabriqué avec trois troncs de bouleau posés parallèlement au-dessus d'un ruisseau. Le bois craque quand il marche dessus. Il continue jusqu'à un rocher. Puis la forêt s'épaissit à nouveau. Du lichen pend des arbres et le sol est jonché d'aiguilles et de pommes de pin brun clair. Un peu plus loin devant eux, une lumière pâle filtre entre les branches. Un pigeon ramier s'envole du sentier au moment où celui-ci débouche sur une clairière. Il n'y a pas âme qui vive. Une pelle et une fourche sont posées sur un tas de terre. Des bacs à compost fabriqués avec des planches à moitié décomposées sont remplis de feuilles de salade, d'épluchures de pommes de terre et de pommes noircies. La puanteur est intense, presque insupportable. Il contourne un tas d'herbes et de feuilles et s'arrête brusquement. Une enfant est accroupie sur la terre battue derrière une brouette rouillée. Ses cheveux blonds sont rassemblés en une longue tresse. Elle a les mains sales et de la morve sous le nez.
« Bonjour ?»
dit Saga en s'approchant d'elle.
« Bonjour ?»
répond la fille avant de se relever.
« Tu viens de Byondo Yoga ?»
Elle acquiesce, tout en enlevant une feuille dans ses cheveux.
« Est-ce que tu as vu Suzanne ?» Elle a vidé les seaux et elle est repartie. « Quand ça ? Je sais pas. C'était juste avant qu'on arrive ?»« Pas vraiment ?»
dit la petite fille en se levant et en brossant avec ses mains la saleté sur sa robe rouge.
« Tu as le droit de venir ici toute seule ?»
Elle secoue la tête.
« Mais tu le fais quand même ?»
sourit Saga.
« Tous les jours ?»
répond-elle en chassant une mouche qui s'est posée sur sa main.
« Pourquoi tu viens ici ?»« Pour voir papa ?»
répond-elle tout bas.
« Et il est où ?»
La jeune fille regarde aussitôt le gros tas de terre.
« Mon Dieu !»
murmure Saga.
À travers un miroir rond suspendu à un fil d'argent, Luck voit apparaître des fesses blanches comme la neige, puis des hanches au moment où la femme change de position et se met sur le dos. Il regarde fixement entre ses cuisses épaisses. Son cœur bat fort dans sa poitrine. Il a le temps de voir que ses poils pubiens sont roux et sa vulve rose pâle avant que le miroir ne pivote à nouveau et qu'un mur jaune apparaisse. Il est littéralement happé par les miroirs. Le plus grand tourne lentement. Il est couvert d'empreintes de doigts et laisse peu à peu apparaître des fragments du lit. Une autre jeune femme, aux hanches étroites, apparaît. Elle est étendue sur le dos. Il ne voit pas son visage. Elle a les poignets attachés avec des foulards rouges. Les poils sous ses aisselles sont noirs. Son ventre est luisant de sueur et les muscles de ses épaules sont tendus. Des doigts aux ongles violets remontent entre ses cuisses et s'enfoncent dans son vagin. La femme aux cheveux roux a le cou écarlate et ses gros seins rebondis sont criblés de taches de rousseur. Le regard de Luck passe d'un miroir à l'autre. Des images distinctes défilent. Un hématome jaunissant sur un mollet. Des lèvres se refermant sur un mamelon brun. Une main aux ongles rongés caressant une joue. Des vergetures sur une fesse plate. Un ventre plat qui se plisse. Le visage de la femme attachée apparaît brusquement dans le grand miroir. Elle a les yeux fermés et des larmes perlent sous ses yeux. Lorsqu'elle ouvre la bouche, Leke comprend qu'il s'agit de Svetlana. Elle n'a plus d'incisive depuis que son mari l'a tabassée dans sa baignoire l'année précédente. Le miroir tournoie et dévoile un genou en sueur. Un oreiller, une nuque aux cheveux blonds bouclés, un mur. Et soudain, Leke se voit en train de regarder à travers la fenêtre. Son visage est étrangement absent et sombre, en contraste avec le ciel clair. Il ne peut s'arracher à son rôle de voyeur. Il est comme hypnotisé. Il reste immobile, alors même qu'il distingue une présence derrière lui. Ses yeux passent du grand miroir à la silhouette qui se reflète dans la vitre. Il voit maintenant qu'elle tient une hache à long manche dans les mains. Leke sent un frisson lui traverser tout le corps. Son cerveau lui ordonne de dégainer son arme, de se retourner et de lui tirer dans l'épaule. Son pouls bat à tout rompre. Lentement, il retire sa main droite du rebord de la fenêtre et la descend jusqu'à l'étui qu'il porte à la hanche. Les doigts tremblant, il atteint la patte de sécurité au moment où la femme derrière lui fait un mouvement et lâche un gémissement étranglé. Leke se cogne le front si fort contre la vitre que le verre se brise. Il attrape son pistolet, déverrouille la sûreté et veut se retourner, mais son mouvement est entravé. Quelque chose l'empêche de bouger la tête et lui en serre le cou. Il essaie à nouveau, mais impossible. C'est à ce moment qu'il comprend que la hache est plantée à l'arrière de son crâne et que le manche heurte le mur de la maison dès qu'il essaie de se retourner. Son cœur s'emballe. Du sang chaud coule sur son col et dans son dos. Il faut qu'il retrouve Magnus pour lui dire d'appeler une ambulance. Il s'éloigne en titubant, parvient à se retourner et voit une femme aux nattes brunes et au cou tatoué qui le fixe avec des yeux écarquillés. Leke appuie sur la détente et tire dans les fougères. L'arme tressaille dans sa main. Le coup de feu résonne contre les rochers de l'autre côté du lac. Il essaie d'appeler à l'aide, mais aucun son ne sort de sa bouche. Des cercles de lumière blanche et bleue clignotent devant ses yeux. Il veut suivre la femme, mais n'arrive pas à lever son arme. Celle-ci est comme aimantée au sol. Au moment où son genou gauche se dérobe sous lui, Leke pense à la petite grenouille collante de sa fille qui descend le long des murs. Il s'effondre dans les hautes fougères. Essaie de se relever, mais reste allongé sur le ventre, face contre terre. Une odeur humide de minéraux, de racines et de plantes l'enveloppe. Il se souvient de l'époque où, petit, il aidait sa mère à cueillir des pois de senteur dans la campagne. C'était un miracle que la cosse du pois sorte directement de la petite fleur.